Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Quasiment 19h sur CNews, merci d'être avec nous pour Face à Mathieu Bock-Côté. Mathieu Bock-Côté, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Arthur de Vatrigan. L'émission commence dans un instant, avant cela le point sur l'information avec vous Mickaël Dos Santos. Cher Mickaël, bonsoir.
Bonsoir Elliot, bonsoir à tous. Les Français inquiets par la hausse du déficit public, malgré les promesses du gouvernement, ils sont de plus en plus nombreux à craindre une augmentation des impôts pour combler la dette. D'après un sondage Odoxa Backbone Le Figaro, 85% d'entre eux y sont opposés. Ils préfèrent la baisse du nombre de fonctionnaires ou encore la réduction des aides sociales. Environ 5 600 000 ménages modestes vont recevoir dès mardi leur chèque énergie. Les montants varient de 48 à 277 euros. Selon le ministère de l'Économie, aucune démarche préalable est nécessaire depuis 2018 et ils permettent ces chèques de payer les factures d'électricité, de gaz ou encore de chauffage. Enfin, en Russie, 5000 enfants évacués de la région de Belgorod près de la frontière ukrainienne. Les autres, ceux restés sur place, vont devoir suivre des cours à distance. Cette décision fait suite aux bombardements et aux frappes de drones menées par Kiev ces dernières semaines.
Merci, cher Mickaël, pour le point sur l'information. À travers la condamnation en appel d'Éric Zemmour cette semaine pour injures racistes, vous souhaitez, cher Mathieu, revenir sur la limite du débat public, sur les digues à ne pas franchir et cet espace qui serait peut-être de plus en plus restreint pour certains. Une condamnation doit-elle être accompagnée d'une mort sociale, politique, médiatique ? On en parle dans un instant. À la une également, les catholiques se retrouvent en ce week-end pascal, période la plus importante de l'année. En 2024, 12 000 adolescents et adultes seront baptisés. En 2024, un rebond dont se réjouit l'épiscopat. Ce soir, vous vous demandez, cher Mathieu, la France, historiquement judéo-chrétienne, l'est-elle encore ? Aujourd'hui, enfin, vous recevez ce samedi soir le philosophe Pascal Bruckner. Il vient de publier « Je souffre, donc je suis » aux éditions Grasset. Voilà le programme de Face à Mathieu Bock-Côté. Mathieu Bock-Côté, c'est parti. Mathieu Bock-Côté, cette semaine, Éric Zemmour s'est vu condamné en appel pour ses propos à l'endroit de Hafsa Toussi. Elle avait dit de son prénom qu'il s'agissait d'une insulte à la France. Il avait dit cela. Ce n'est pas la première fois qu'Éric Zemmour est d'ailleurs condamné. Le président de Reconquête se dit victime de harcèlement judiciaire. C'est à cette question que vous souhaitez consacrer votre premier édito, Mathieu Bock-Côté.
Oui, je pense que c'est une... parce qu'il ne faut pas se laisser berner dans ce débat sur la nature du propos. Son prénom serait une insulte à la France, qui est un propos évidemment plus que regrettable, un propos plus que discourtois, un propos qu'Éric Zemmour n'aurait pas dû tenir. Ça, tenons-le, tenons cela comme allant de soi. Donc, ce sont des propos que nul ne reprend. Mais le véritable enjeu ici, ce n'est pas ce propos en tant que tel. Je pense que tout le monde aurait avantage d'être plus courtois en politique que l'existence d'un dispositif politico-juridique, techno-juridique, qui permet aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler la judiciarisation exagérée, la pénalisation exagérée de la parole publique dans nos sociétés. La France est frappée par ça, mais elle n'est pas la seule. En Europe, c'est très présent. En Amérique du Nord, un peu moins. Donc, ce que j'appelle disposition de la pénalisation, qui s'accompagne d'une logique de censure, c'est qu'est-ce qu'on voit à travers ça? C'est que tous les propos qui peuvent choquer, qui peuvent heurter, et il y en a, je l'entends, Dieu sait qu'il ne manque pas de propos qui peuvent choquer. Mais qu'est-ce qu'on voit dans nos sociétés de plus en plus? Certaines catégories que l'on dira protégées de la population sont parvenues à sanctuariser, à institutionnaliser leur vision de la société, leur lecture de leur propre identité, et à faire en sorte que tout propos qui vient les heurter passera non plus sous le signe de la critique publique, le débat public c'est toujours permis, mais sera judiciarisé. Alors, il y a trois grandes catégories à partir desquelles on judiciarise les propos aujourd'hui, les propos litigieux. Il y a la question de la haine, la question du racisme, la question de l'appel à la discrimination. On pourrait faire une sociologie plus fine, rajouter des catégories, mais globalement, ce sont les trois grandes catégories à partir desquelles on poursuit les gens devant les tribunaux pour des propos que l'on juge condamnables. Le problème de ces trois termes, haine, racisme et appel à la discrimination, c'est que ce sont des termes relativement imprécis, dont la définition n'a cessé de s'étendre ces dernières années, et qui, rappelons-le, sont pris en charge l'extension toujours du domaine de ces trois termes, s'associer au dispositif où n'importe quelle association peut décider de traîner devant les tribunaux quelqu'un en se portant partie civile en disant « ben moi, je me sens insulté pour cette personne ou pour cette communauté ou pour ce groupe ». Et dès lors, je décide d'aller devant les tribunaux. Donc, revoyons que veulent dire ces trois termes aujourd'hui. La haine. Alors, la haine, évidemment, c'est mal. Tout le monde est en désaccord avec la haine. Mais qu'est-ce qu'on entend par haine aujourd'hui? Et je donne souvent l'exemple suivant. Si je dis, Elliot Deval, je vous déteste, je vais vous arracher la tête et vous battre avec votre tête ensuite tellement je vous déteste. Est-ce que c'est un propos haineux? Globalement, non.
Ah.
C'est pas un propos haineux. Parce que la haine, comme le dit par exemple Caroline Emke, qui est une philosophe allemande, une intellectuelle allemande qui a touché à ces questions, a dit la haine, globalement, elle a fait un livre contre la haine, c'est s'opposer aux revendications légitimes d'égalité et d'accès à la reconnaissance publique des différentes minorités. Si vous êtes contre par exemple, si vous affirmez un homme ne peut pas être enceinte et ne pourra jamais être enceinte, ou encore, une femme ne pourra jamais devenir un homme et un homme ne pourra jamais devenir une femme. Et même si le ressenti de genre dit le contraire, c'est faux. Imaginons que quelqu'un dise un propos comme ça, je ne le prends pas à mon compte, mais je dis moi, quelqu'un dirait ça, eh bien ça peut être considéré comme un propos haineux. Si, par exemple, vous affirmez certaines civilisations sont condamnées à ne pas pouvoir cohabiter sur un même territoire. Il y a un choc. Et si vous utilisez un langage qui évoque, par exemple, les croisades ou la colonisation, mais dans le sens inverse, pour parler du choc des civilisations, ça peut être assimilé à un propos haineux. Donc là, on a un problème avec ce concept de haine aujourd'hui, c'est qu'il sert, en fait, à interdire toute réflexion critique, au-delà des cas particuliers, sur la crise de la société diversitaire. De même, le racisme. Le racisme est-il condamné dans nos sociétés? Pas autant qu'on le croit. Le racisme anti-blanc est tout à fait permis, valorisé. Il est mis de l'avant et on considère que c'est bien lorsqu'on dit, par exemple, que certains postes, tout ce qui touche à la logique de la discrimination positive, ou encore la critique de la blanchité dans l'université, la blanchité serait nécessairement négative, eh bien ça, c'est tout à fait permis. Donc, notre société n'a rien contre le racisme en général. Elle en a contre le racisme en endroit de certaines communautés, les minorités, très bien, effectivement, ce racisme est condamnable, mais elle n'a rien contre le racisme contre la majorité, parce qu'on décrète même qu'il n'existe pas et qu'il est politiquement impossible. Donc le concept de racisme, dans les faits, il sert surtout à interdire toute critique de l'immigration massive. Et quant à l'appel à la discrimination, qui est l'autre grande catégorie par laquelle on cherche à enserrer ou à codifier, à restreindre la liberté d'expression, eh bien, toute remarque sur des observations statistiques, par exemple, telle communauté est davantage présente dans tel champ d'activité, négatif ou positif, que telle autre, et que ça a des effets sur la lecture de la société, eh bien là, c'est un appel à la discrimination. Vous mentionnez le rôle plus grand de telle communauté dans tel champ d'activité dont on se désolera peut-être, alors vous êtes dans l'appel à la discrimination. Donc le constat du réel, il ne s'agit plus de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, ce qui devrait être le seul critère, à mon avis, mais de savoir si c'est conforme ou non à la lecture de la société diversitaire. Donc, qu'est-ce qui se trouve avec ces motifs-là? Eh bien, il y a l'extension du domaine de la condamnation juridique, l'extension du domaine de la pénalisation des propos. Donc, on crée une forme de délit d'opinion, en effet. Un délit d'opinion, certaines... Et là, on va nous dire quelquefois, le racisme, entre guillemets, n'est pas une opinion, c'est un délit. J'entends l'argument, mais si on prend au sérieux l'extension du domaine du racisme aujourd'hui, on comprend que la critique de l'immigration massive, demain ou après-demain, sera classée, ou peut-être même aujourd'hui, sera classée, si elle n'est pas formulée dans les termes permis par le système, sera considérée comme un délit. Donc, quelle est la fonction de ces procès qui se multiplient, qui relèvent du harcèlement judiciaire souvent? Ça sert fondamentalement à marquer au fer rouge. Ça sert à créer une censure sur le débat public. Vous savez que si vous avancez sur certains terrains, vous allez en payer le prix. Et le prix sera cher à payer. Ensuite, la fonction de ces procès qui viennent avec une condamnation, c'est que ça permet de réduire l'identité civique ou sociale d'une personne à cette condamnation. Donc, ça permet de marquer au fer rouge de l'infréquentabilité le condamné pour des propos dont on perd souvent la trace. Il ne faut pas se tromper, quelquefois on dit souvent condamné pour... les différents délits que j'ai évoqués, mais on prend rarement la peine de mentionner quels étaient les propos exactement condamnés. De même, ça permet donc de réduire ces individus à leur condamnation, et on les rappelle toujours comme s'il s'agit de délinquants sur la place publique, donc ils ne sont plus que ces propos condamnés. Ça permet aussi de les étiqueter à l'extrême droite, entre guillemets, avec l'idée, encore une fois, de les transformer en parias. Et avec cette idée que cette marque indélébile devrait assurer leur mort sociale. Mais certains veulent que ça aille plus loin aujourd'hui. Les sénateurs communistes ont espéré, il y a quelque temps, faire en sorte que ceux qui sont condamnés pour, justement, incitation à la haine ou ainsi de suite, j'ai pas le détail du terme à l'esprit, vous comprendrez l'idée, soit une peine d'inéligibilité. Donc, si vous êtes frappé par une telle condamnation, vous perdez vos droits civiques, vos droits électoraux, vos droits politiques. Donc, et Jean-Michel Apathy vient tout juste de dire sur Twitter, il a dit « Ah, Zemmour est encore invité ici et là, alors qu'il a de telles condamnations. Pourquoi accepte-t-on de recevoir sur des plateaux télé quelqu'un qui a de telles condamnations ?» Donc, on comprend, ce sont des condamnations idéologiques. Ce sont des condamnations qui relèvent du délit d'opinion. Et quand je dis ça, je ne me porte pas à la défense de toutes les opinions condamnées, hein, qu'on se comprenne bien. Il y a plusieurs des opinions qu'on peut entendre que je trouve tout à fait condamnables aussi. Mais il y a une différence entre la condamnation dans le débat public et la condamnation juridique. Et ensuite, quelles seront les conséquences de ces condamnations à répétition ? Restriction de la liberté d'expression et d'association, manifestation interdite, colloque interdit, j'ai eu l'occasion d'en parler ici quelques fois, si vous portez la mauvaise étiquette, si vous avez été condamné une fois de trop, eh bien, on peut décider de restreindre votre liberté aux colloques, aux associations, des complications pour l'embauche, des complications bancaires, des pertes de droits civiques et sociaux. Donc, autour de ça, qu'est-ce qu'on voit? C'est un dispositif qui pousse à la censure, donc à l'autocensure, qui restreint le périmètre du débat public autorisé et qui, à la fin, est antidémocratique. En démocratie, on devrait débattre des différents points de vue et non pas poursuivre le débat devant les tribunaux.
Mathieu Bocoté, ces lois n'ont-elles pas la vertu de civiliser le débat public en refoulant la part la plus mauvaise de l'âme humaine à l'extérieur du périmètre de la loi?
J'entends cet argument parce qu'on me l'a souvent fait en me disant « mais il y a certaines choses qui devraient tout simplement pas se dire dans l'espace public ouais. ». J'entends, mais le problème, c'est que les choses qui ne doivent pas se dire se sont tellement multipliées ces dernières années qu'on comprend que la liste des interdits est appelée à s'enrichir sans cesse. Tout ce qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut plus dire, c'est assez inquiétant. Alors, je vais donner, j'ai parlé récemment sur ce plateau de la loi, de la proposition de loi de Mathieu Lefebvre, du gouvernement, un homme intelligent, un homme intellectuellement construit, mais qui a porté avec d'autres cette idée d'une loi qui vise à pénaliser les propos, pousser plus loin la condamnation ou la pénalisation des propos dit haineux, dans le domaine non public. Certains nous disent que ce n'est pas le domaine privé, moi j'en crois absolument rien. Il y a le public et le privé. Le non public comme domaine, c'est une catégorie jésuitique qui sert en effet à étendre le domaine de la surveillance étatique. Qu'est-ce qu'on voit avec ça? Et je le donnais l'exemple suivant, parce qu'on nous a dit comme argument pour plaider pour ce projet de loi, imaginez que quelqu'un à la machine à café dise d'un autre « sale juif ». Est-ce qu'on ne pourrait pas le condamner? Est-ce qu'on ne doit pas donner les moyens à l'État de condamner quelqu'un qui dirait ça? Puis effectivement, que l'exemple donné est scandaleux. Quelqu'un qui dirait « sale juif », c'est atroce. C'est un propos qui est absolument irrecevable. Mais sachant la définition aujourd'hui du propos haineux, imaginons que quelqu'un dise, vous connaissez la fameuse théorie du grand remplacement, certains s'en réclament, d'autres non, c'est pas mon cas ici, mais imaginons que quelqu'un dise « il y a un grand remplacement en France aujourd'hui ». Pour une partie de la gauche, c'est une théorie haineuse. C'est une théorie qui relève du propos haineux. Eh bien, est-ce que dans ce cas, une personne qui dirait ça à la machine au café, au travail, pourrait voir ses propos sanctionnés, pénalisés par les tribunaux? Moi, c'est une chose dont je m'inquiète. La surveillance du domaine privé, c'est une chose dont je m'inquiète. Mais qu'est-ce qu'on voit? Il y a eu une très faible résistance devant cette proposition de loi. On n'en parle pas beaucoup. J'en parle comme un obsédé monomaniaque. Mais je constate que très, très peu en parlent. Et j'y vois, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que très peu se portent à la défense d'une liberté d'expression sérieuse et conséquente. Et on le comprend. On l'a vu notamment avec des députés qui auraient pu s'y opposer à l'Assemblée nationale quand on leur demandait pourquoi ils ne le faisaient pas. Ils disent « on ne veut pas se faire soupçonner d'antisémitisme ». Mais à quel moment la défense de la liberté d'expression relève-t-elle de l'antisémitisme? Et là, j'entends l'argument, on se dit « oui, mais c'est une loi dans le contexte des suites du 7 octobre ». Et moi, personnellement, j'avouerais que je trouve un peu odieux le fait d'instrumentaliser quelque chose d'aussi atroce que le 7 octobre, un crime qui relève du pogrom comme le 7 octobre, pour ensuite chercher à restreindre le domaine de la liberté d'expression des Français. Pour moi, il y a aussi une instrumentalisation malvenue qui n'est pas nécessairement conforme à mon sens du débat public.
Et tout cela, de quelle manière tout cela transforme-t-il notre vie médiatique?
Parce que dans les médias, normalement, on est censé avoir le débat. C'est-à-dire, ça devrait être le lieu du débat. Mais si vous vous présentez dans l'espace public en ayant toujours peur de vous faire sanctionner, toujours peur d'avoir une poursuite contre vous, en ayant toujours peur de le dérapage du moment, parce que les possibilités de déraper se multiplient, eh bien, vous développez une culture de l'autocensure. Et je note que les médias ne sont pas neutres. Et les médias publics, surtout, ne sont pas neutres. Madame Adèle Van Riet, hein, qui dirige France Inter, une femme de qualité, nul doute là-dessus, a quand même dit tout récemment, France Inter, dans le Figaro, est une radio progressiste. Ah ben, je m'excuse. On ne peut pas être une radio progressiste et pluraliste à la fois. Une radio pluraliste, c'est une radio qui accueille une diversité de points de vue. Une radio pluraliste, c'est qu'elle décide de prendre à sa charge une certaine philosophie de la société, un certain point de vue. À la rigueur, on va faire ses droits d'une opposition résiduelle ou minoritaire. Mais quand vous dites « je suis une radio progressiste », vous nous dites « je suis une radio idéologique ». Si la radio publique disait « je suis une radio conservatrice », qu'est-ce que vous pensez que l'opinion dirait? Mais que c'est scandaleux. Si on dit c'est une radio réactionnaire ou populiste, on dirait c'est scandaleux. Pourquoi lorsqu'on dit c'est progressiste, c'est pas scandaleux? Parce que ça nous indique beaucoup sur le sens du débat public dont je vous parle depuis tantôt. Qu'est-ce qu'on voit à travers ça? C'est que certaines opinions vont dans le sens de l'histoire et d'autres sont jugées désuètes, périmées, inacceptables, inadmissibles. Donc là, le service public dit « je vais piloter le débat public dans une direction en particulier » et ceux qui ne participent pas à ça seront laissés de côté, mais ils l'auront bien cherché parce qu'ils ne marchent pas au rythme du progrès revendiqué. Et de ce point de vue, un dernier mot, on l'a vu, je disais qu'il peut y avoir une condamnation à la mort sociale lorsqu'on vous soupçonne de penser coupable. Le sort de Jean-François Akili, qui a été, son nom a été jeté en pâture dans l'espace public parce qu'on le soupçonne d'avoir peut-être envisagé de participer à la rédaction d'un livre avec Jordan Bardella. On ne connaît pas les modalités de la participation. On ne sait pas si c'est un livre d'entretien. On ne sait pas de quelle manière. Mais le soupçon d'avoir touché le contaminé, le radioactif, l'infréquentable, l'extrême droitisé Bardella vous vaut ensuite condamnation à un début de mort sociale dans votre travail. C'est quand même assez inquiétant.
Arthur de Vatrigan, quel regard portez-vous sur ce sujet, sur la liberté d'expression? Est-ce que on peut tout dire autour d'un plateau, par exemple?
Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter à la brillante démonstration de Mathieu, sinon que je suis en désaccord avec beaucoup de chose qu'il a dit. Mathieu, c'est le nouveau progressiste, c'est le 68 War 3.0. Il débarque comme ça du Québec et dit on va tout autoriser. En fait, non, parce que justement, une société sans ordre moral n'existe pas. Et c'est parce qu'on a voulu abattre l'ordre ancien au nom d'une fausse liberté qu'on a vu apparaître ces dernières années une morale cathare allaitée au campus américain qui ont comme seule morale de vouloir créer l'homme nouveau et d'abattre socialement, en première partie peut-être plus, à l'avenir, tout adversaire politique. J'aurais juste cité un film, Salaud de Pasolini, qui paradoxalement montrait dans son film que c'était peut-être aussi de l'absence de censure que pouvait naître le fascisme. Donc la possibilité d'une censure devrait être, je pense, remise au goût du jour en France.
Ne vous inquiétez pas, cher ami, elle est là.
Dans votre second édito, vous allez parler de la France. Est-ce que la France est encore un pays catholique? Nous arrivons au terme de la Semaine Sainte. Et naturellement, vous teniez à parler du rapport de la France au catholicisme. En vous posant une question simple mais existentielle, la France est-elle encore un pays catholique?
Alors je me ferai plus bref sur ce sujet parce que je vais laisser plus de temps à notre ami Arthur qui est très, très travaillé par ces questions et je le comprends. J'irai très simplement. Un homme qui aujourd'hui se promène en Europe, un Français qui se promène en Europe, il voit les cathédrales, il voit les églises, il voit les noms de saints partout, le boulevard Saint-Germain, Saint-Michel, ainsi de suite. Est-ce qu'il sait tout simplement, est-ce qu'il est capable de lire l'environnement symbolique dans lequel il évolue? Est-ce qu'il le comprend ou est-ce qu'il regarde ça comme un spectateur décentré de sa propre histoire? Est-ce qu'il voit le monde qui est nommé tel qu'il est nommé? Est-ce qu'il le voit comme s'il était dans un musée? Tout ça ne lui dit plus rien. Il a le privilège de vivre dans un musée. Alors, c'est plus beau vivre à Paris que de vivre à Milwaukee. C'est mieux de vivre au cœur d'une ville travaillée par l'histoire que de vivre dans une espèce d'extension de développement résidentiel moche où toutes les maisons sont interchangeables. Mais est-ce qu'on est capable de comprendre l'environnement dans lequel nous vivons? Ou est-ce que désormais on pense que le destin de l'Europe doit se dissocier de sa matrice catholique, de l'histoire du catholicisme, de l'histoire du christianisme? Certains le croient aujourd'hui et ça nous condamne à devenir touristes dans nos propres pays.
Et pourtant, on tend aussi à vouloir dissocier l'Europe du catholicisme. Cette dissociation n'est-elle pas définitive?
C'est la conviction de ceux qui croient que nous sommes sortis de l'histoire, que nous ne sommes plus en fait, nous sommes des... C'est terminé. Ce serait notre passé, notre préhistoire, notre histoire à la rigueur, mais ce ne serait plus notre présent ni notre avenir. Mais il y a derrière ça la terrible arrogance des modernes. C'est l'héritage de la modernité révolutionnaire qui voulait recommencer l'histoire à zéro, qui voulait un grand recommencement, qui voulait nettoyer l'histoire de ces, enfin, nettoyer le présent des scories historiques et porter le rêve d'une société intégralement planifiée, délivrée des traditions, délivrée de la religion, délivrée de la culture, délivrée de son identité. Donc son présent, c'est l'hubris des modernes, c'est l'utopisme des modernes, un monde intégralement recommencé à neuf. Mais c'est un monde absolument qui nous condamne à mourir de froid. Et j'ajoute que c'est un monde qui nous condamne à faire tout petit. Ça, c'est le paradoxe de la croyance, en fait. C'est-à-dire, l'homme, lorsqu'il voulait... Je ne me prononce pas sur la croyance des uns et des autres. Mais lorsque l'homme croyait à plus grand que lui, il construisait dans l'idée d'immortaliser sa présence sur Terre. Les cathédrales en sont la trace. Dès lors que l'homme ne croit plus en d'autres choses que lui-même, quelquefois, il tente de dire « Mais finalement, je n'ai pas de place spécifique dans la création. Je ne suis qu'un élément parmi d'autres dans le vivant. Je n'ai pas un statut spécifique. Je suis peut-être même un élément nuisible du vivant, comme dans le magma terrestre, comme on l'entend aujourd'hui. » Donc, de ce point de vue, rompre avec la matrice chrétienne, catholique de l'Europe, je ne dis pas qu'elle se réduit à ça, mais c'est rompre avec une part vitale de soi.
Mathieu Bocoté, il nous reste un peu moins de 4 minutes. Est-ce que je vous pose la dernière question ou je donne la parole?
Oui, très rapidement.
Parfait. La quête de sens de l'homme moderne ne l'amène-t-il pas à avoir de temps en temps la nostalgie de son ancienne religion?
Oui, je le vois. Parce que vous savez, moi j'aime dire, Chesterton nous disait, l'homme lorsqu'il cesse de croire en Dieu, il ne croit pas en rien, il croit en n'importe quoi. Et j'ai tendance à penser qu'on a, c'est le New Age, on est passé du Christ au Christo. Hein, on est passé on a besoin de croire, mais quand vient le temps des grandes étapes de la vie, naissance, mort, mariage, on a besoin de rituels, mais on a souvent des rituels en toc, des rituels artificiels, des rituels fabriqués de dernière main, des rituels qui nous ennuient, et à ce moment-là, soudainement, nous avons la nostalgie, non pas d'un monde ancien vers lequel on voudrait se réfugier, mais d'une part de nous que nous avons peut-être oublié. Parole à Arthur.
Arthur de Vatrigan, la France est-elle encore catholique? Elle l'était hier, elle l'est aujourd'hui encore ou pas?
La chrétienté, comme le démontrait brillamment la philosophe Chantal Delsol dans son essai « La fin de la chrétienté », c'est une société dans laquelle le christianisme insuffle ses idées, dirige les mœurs et inspire les lois. À Borgne, aujourd'hui, vous confirmerez que notre société française n'est plus chrétienne. Mais le christianisme, c'est encore autre chose. Le christianisme, c'est pas une idée, c'est pas un idéal, c'est pas un ensemble de valeurs. Le christianisme, c'est avant tout la foi. Et là, il faut lire un autre philosophe, Pierre Manant, qu'on avait reçu ici d'ailleurs, et son superbe essai, Pascal et la proposition chrétienne. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit la proposition chrétienne, ça veut dire que Dieu se propose aux hommes et que les hommes doivent répondre par oui ou par non. À la différence d'un idéal ou d'une valeur, où c'est nous qui sommes à la manœuvre et on choisit notre idéal, là, la proposition chrétienne, vous avez pas le choix de la question, mais vous avez le choix de la réponse. Vous avez le choix de la réponse, mais il faut répondre. Vous êtes obligé de répondre. Et y répondre favorablement, c'est accepter justement que la foi catholique n'est pas un ingrédient identitaire. En tout cas, c'est accepter que le catholicisme est constitutif d'une identité que si l'on admet la véracité, la validité, les dogmes, les mœurs qu'elle induit. Et autant vous dire que dans notre ère postmoderne, même un martien paraîtrait plus assimilé qu'un catholique. Alors, la foi, c'est quoi ? Ça, c'est ce que dit et écrit Pierre Manant. La foi, c'est découvrir son incapacité à se délivrer de l'esclavage du péché originel par ses propres forces, et donc découvrir que le pouvoir libérateur et éclairant de la grâce divine. Donc là, je reviens à la chrétienté. Il ne peut pas y avoir de chrétienté sans christianisme. Et la chrétienté, en fait, c'est une manifestation institutionnelle d'une surabondance intérieure de la vie. Donc le christianisme assume une morale et une anthropologie, mais qu'il faut absolument transmettre avec une foi, parce que sinon ça devient un mythe ou une belle histoire qu'on raconte. Et s'il y a un enracinement authentique dans une vie de prière ou dans une vie de foi, alors le christianisme peut résister. Si ça devient une sorte de militantisme extérieur, identitaire, la résistance finit par s'étioler évidemment. Alors l'avantage, c'est que les catholiques connaissent déjà la fin. Ils ont suivi la passion du Christ hier, ils vont vivre sa résurrection ce soir, donc ils n'ont aucune excuse pour refuser le combat, qui est un combat, je le rappelle, une insurrection intérieure. C'est pas un combat contre le monde réel. Et on les voit peu parce que, à la différence d'autres, ils ne brandissent pas de pancartes, ils ne hurlent pas de slogans. Leur moteur, c'est l'humilité. Leur mission, c'est l'exemplarité. Donc ils sont là, mais si vous voulez, c'est des laboureurs qui sont humbles, qui sont discrets, qui nourrissent le clochard à la tombée de la nuit, qui vont faire sonner les cloches des églises désertes, des campagnes. Et ils vont dans la pénombre où plus personne ne va, un peu comme des petites flammes qui vont éclairer les ténèbres. Mais si vous voulez, c'est des vrais héros, ce sont des tombes qu'on ne visite plus. Et ils sont là pour nous rappeler qu'à force de se regarder le nombril, c'est un peu le défaut de notre ère moderne, on sera bientôt plus capable ni de lever les yeux au ciel pour convoiter l'absolu, ce qu'ont fait nos anciens, par l'art, l'architecture, ni pour voir qu'un sauveur est né un 25 décembre à nos pieds.
Merci Arthur de Vatrigan. On se retrouve dans un instant.
Avec Pascal Bruckner.
Puisque Pascal Bruckner sera notre invité. Je souffre donc, je suis. La publicité, à tout de suite pour la suite de Face à Mathieu Bock-Côté. La suite de Face à Mathieu Bock-Côté dans un instant. Mais avant cela, l'information avec vous, Mickaël Dos Santos. Rebonsoir, Mickaël.
Rebonsoir, Eliott. Rebonsoir à tous. Les opérations PlaceNet XXL produisent énormément d'effets et elles vont continuer. En visite à Saint-Denis, Gérald Darmanin a dressé un bilan provisoire et positif de ces opérations de lutte anti-drogue. Au niveau national, 1738 personnes ont été interpellées, 150 kilos de drogue et 2 400 000 euros ont été saisis. Aux Pays-Bas, la prise d'otage dans un café qui a eu lieu à une centaine de kilomètres de La Haye a connu une fin heureuse. Les 4 personnes retenues pendant plusieurs heures, dès 5 heures du matin, ont été libérées sans être blessées. Le suspect a été arrêté, placé en détention provisoire. Les autorités semblent avoir écarté tout motif terroriste. Enfin, une enquête a été ouverte après la disparition d'un couple de Français sur l'île de Madère au Portugal. L'annonce a été faite par le procureur de la République à Montauban. Parti en randonnée, les deux boulangers originaires du Tarn-et-Garonne n'ont donné aucun signe de vie depuis le 16 mars dernier.
Merci Mickaël pour le point sur l'information. On est toujours avec Mathieu Bock-Côté, avec Arthur de Vatrigan. Merci à vous d'être présent. Pascal Bruckner, pour cette émission, bonsoir. Vous avez publié il y a une dizaine de jours « Je souffre, donc je suis ». Cher Mathieu Bock-Côté, pourquoi avoir invité ce samedi soir Pascal Bruckner ?
Je lis d'aussi loin que je me souvienne de mes premières lectures sur des questions d'adultes, j'ai lu Pascal Bruckner. Et j'ai l'impression que ce livre, c'est le point d'aboutissement d'une enquête commencée au début des années 80 avec Le sanglot de l'homme blanc et qui culmine aujourd'hui dans Je souffre, donc je suis. Pascal Bruckner, bonsoir.
Bonsoir Mathieu.
Alors justement, je dis ce livre, pour moi, s'inscrit dans un travail de fond que vous menez pour comprendre, alors le terme est peut-être trop fort, mais l'anthropologie propre de notre époque, c'est-à-dire le type d'être humain que produit notre époque. Est-ce que je me trompe en disant que du sanglot de l'homme blanc à Je souffre, donc je suis, il y a une continuité dans votre enquête?
Non, vous avez raison. Je pense qu'on écrit toujours le même livre, ou en tout cas on essaie de broder autour des mêmes thèmes, des mêmes obsessions. Et déjà dans Le sanglot de l'homme blanc, j'abordais le thème de la victime et du bourreau. La victime, c'était le tiers-monde, le bourreau, c'était l'Occident, coupable, forcément coupable. Et aujourd'hui, je vois qu'une sorte, effectivement, de nouvelle anthropologie est en train de se mettre en place dans les pays européens et américains, où chaque citoyen a tendance à vouloir s'assimiler à une victime absolue, puisque l'état de victime est devenu, depuis précisément les années 80, un état éminemment désirable, en raison de tous les avantages, tous les privilèges, à la fois matériels et existentiels, qu'il procure. Et donc, il y a eu un basculement dans les années 80, c'est-à-dire qu'on est passé dans l'imaginaire collectif français, mais aussi européen, de l'exaltation du résistant, du maquisard qui s'était battu contre l'Allemand, à l'exaltation du déporté, du concentrationnaire. Beaucoup de films sortent à cette époque, donc vous ne les avez pas vus parce que vous n'étiez peut-être pas né. Beaucoup de films sortent qui exaltent la figure du sacrifié, du martyr absolu. Et par une métamorphose qui est intéressante, le survivant de la Shoah devient presque un idéal sur lequel chacun voudrait aligner sa propre souffrance. À cela s'ajoute un autre phénomène qui est effectivement l'allergie des citoyens des pays occidentaux aux épreuves, à l'adversité, le fait que depuis la Seconde Guerre mondiale, et ma génération en est le premier témoin, nous tolérons de moins en moins les obstacles, les petits tracas. Et vraiment, c'est la génération 68 qui a commencé à se conduire de cette façon-là. Mais ça a empiré avec la génération XYZ. Et pour les jeunes, on a parlé, surtout aux États-Unis, du syndrome de la princesse au petit pois, c'est-à-dire du fait que beaucoup de jeunes gens et jeunes filles vivent les remarques des obligeantes, les regards ou les comportements à la manière d'une agression. C'est le fameux concept de micro-agression qui a eu tant de succès et qui fait que un nouvel être humain est apparu à la fin du XXe siècle, qui est un être humain hyper susceptible.
Alors, vous avez évoqué le statut de victime qui a des avantages symboliques et financiers. Je poserai plus loin la formule. Est-ce qu'on n'est pas en train de reconstituer le principe aristocratique, mais à travers sa dimension victimaire? Donc, globalement, vous devez réussir à vous inscrire parmi les victimes, et il y a l'aristocratie de ceux qui ont souffert d'une manière ou de l'autre. Et si on est capable de conjuguer plusieurs souffrances, l'intersectionnalité, alors on gagne des points et probablement des avantages.
Absolument, vous avez raison. C'est une nouvelle noblesse dans laquelle on entre, non pas par sa naissance, mais par les malheurs endurés au cours de sa vie, malheurs réels.
Ou par ses ancêtres, quelquefois.
Ou par ses ancêtres, puisqu'il y a transmission du statut de victime, transmission du statut de victime du père en fils et transmission du statut de bourreau de père en fils de la même façon. Et effectivement, c'est un club très fermé, un club élitiste. Il faut se battre pour y entrer. Il faut avoir ses quartiers de noblesse, ses quartiers de souffrance. Et une fois qu'on y est, la difficulté, c'est d'y rester. Or, on s'aperçoit que le principal problème de la victimisation, et encore une fois, il faut faire une distinction très claire, Le souci des victimes, le souci des faibles, des opprimés, c'est la grandeur de la civilisation, notamment judéo-chrétienne, à laquelle nous appartenons, puisque c'est la figure du Christ qui a donné lieu à cette promotion de l'humilié. Mais la victimisation, c'est un phénomène parasitaire qui s'est greffé là-dessus, très tôt d'ailleurs dans l'histoire de l'Europe, et qui fait que tout le monde voudrait pouvoir accéder à cet état qui est un état béni. On entre dans une sorte de sainte famille qui fait de vous effectivement un être hors du temps. Et on peut dire qu'on pourrait distinguer trois étapes dans l'histoire de la souffrance en Occident. Il y a l'étape chrétienne, donc jusqu'à la Révolution française. La souffrance est un signe de notre péché, mais c'est une manière aussi de se racheter. C'est donc un signe de rédemption. Avec le 19e siècle, intervient dans le droit la notion de réparation. Vous êtes blessé, vous êtes victime d'un accident, vous avez droit à des dédommagements, et c'est ce qui va construire tout l'édifice de la justice aujourd'hui. Et depuis les années 80, depuis l'après-guerre, il y a un troisième phénomène que j'ai appelé la résurrection, mais c'est une résurrection de son vivant. C'est-à-dire on accède à une sorte d'empyré, c'est un Olympe magique qui fait que vous êtes, de par votre statut, de par votre naissance, votre couleur de peau, si vous êtes un homme ou une femme, si vous appartenez à une minorité, vous êtes effectivement sauvé. Et quoi que vous fassiez, vous échappez au jugement des autres, vous avez tous les droits et vous avez le minimum de devoirs. Et effectivement, c'est tellement enviable que personne ne veut abandonner cet état-là.
J'ai même l'impression que ça marque en fait les comportements de la vie ordinaire. Je m'explique, l'homme qui autrefois souffrait prenait sur lui. On lui disait ça, prends sur toi. Et c'est la fameuse scène du parrain avec, je ne sais pas si vous avez le souvenir, Johnny Fontaine au début qui pleure et dit « Qu'est-ce que je peux faire, parrain ?» Et le parrain répond en le giflant « Mais comporte-toi comme un homme. Globalement, retiens-toi, ne souffre pas publiquement. » Aujourd'hui, j'ai l'impression que dans la culture populaire, celui qui se présente quelque part doit à un moment donné confesser sa souffrance, pleurer publiquement aussi pour être admis dans le club de l'empathie. Donc j'ai l'impression que ça touche même le commun des mortels dans sa vie ordinaire.
Oui, vous avez totalement raison. Et vous savez que dans les disciplines olympiques, et certains sportifs qui ont renoncé à concourir parce qu'ils étaient malades ou parce qu'ils avaient des problèmes familiaux ont été plus félicités que ceux qui ont gagné la médaille. Et ça, c'est un phénomène vraiment nouveau. Alors, le grand symptôme de cet état d'esprit, c'est la décision de François Hollande en 2015, après les attentats du Bataclan, d'accorder la Légion d'honneur aux victimes des attentats terroristes. Le grand chancelier de la Légion d'honneur a refusé en disant non, c'est un contresens, ça va tout à fait à l'encontre de cette institution. Et donc, Hollande et le gouvernement ont décidé de créer une médaille de reconnaissance des victimes qui vient en quatrième dans la hiérarchie des récompenses républicaines. Mais ça va devant la Croix de Guerre et devant toutes les médailles du mérite des soldats. Ce qui a beaucoup d'ailleurs froissé la hiérarchie militaire. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, celui qui a subi vaut mieux que celui qui agit. Le malheureux a plus d'importance que le valeureux. Mais c'est un renversement complet, effectivement, des principes sur lesquels nous vivons depuis toujours. Et si aujourd'hui, à un garçon qui pleure, vous lui dites « conduis-toi en homme, arrête de pleurnicher », alors là, immédiatement, on se précipite sur vous en disant que vous lui inculquez une virilité toxique. Moi, j'ai été élevé dans ce principe. Effectivement, j'appartiens à une génération où il y avait encore des châtiments corporels. Aujourd'hui, c'est impensable et c'est sans doute beaucoup mieux. Mais c'est vrai que l'héroïsme est aujourd'hui considéré comme une chose étrange. Et vous savez que Arnaud Beltrame, vous le savez sans doute, Arnaud Beltrame a eu une plaque à Paris. On dit Arnaud Beltrame mort à Trèbes entre les mains d'un terroriste, victime de son héroïsme. Victime de son héroïsme, c'est hallucinant. On n'est pas victime de son héroïsme, car l'héroïsme, c'est précisément cette attitude qui vous élève au-dessus du commun, qui fait de vous un être exemplaire qui doit être imité par les autres, puisque le héros, c'est l'homme ou la femme qui décide sur un coup de tête et sans réfléchir de tout sacrifier pour sauver une personne en danger. Mais là, on voit bien que l'idéologie victimaire est tellement prégnante, tellement puissante, qu'elle veut même s'inscrire dans l'éloge d'un héros incontestable.
Arthur de Vatrigan.
Justement, la célébration de la victime, l'éloge victimaire, est-ce que c'est une nouvelle séquence de l'épopée moderne ou une nouveauté qui sera le symbole de sa décomposition?
Ah, c'est les deux. Effectivement, c'est la séquence ultime d'une certaine décomposition de l'Occident. C'est-à-dire que, parce qu'il faut, le dire très clairement, une société de victimes est une société invivable. Elle est invivable parce que personne ne veut assumer la responsabilité de ses actes. C'est la fameuse phrase de Nietzsche, « Je souffre, quelqu'un doit en être la cause ». Donc si je souffre, ça n'est jamais de ma faute, c'est toujours la faute du système, du patriarcat, de la bourgeoisie, de la religion, etc. etc. Et s'il n'y a que des victimes, eh bien, personne ne veut prendre la tête d'un pays. Et puis surtout, une société de victimes, ce n'est pas du tout une société de la bienveillance. Car le victimisme est un bellicisme. C'est-à-dire que si vous êtes, si on vous attribue ce titre, si on vous dit bravo, vous avez vraiment mérité la couronne victimaire, immédiatement, vous avez le droit de pointer un doigt accusateur sur quelqu'un d'autre, de saisir la justice. Et donc, en réalité, ce victimisme larmoyant est très agressif aussi. C'est ça qui est étonnant. Donc, c'est un symptôme de décomposition. Et on voit bien que dans la situation géopolitique que nous sommes aujourd'hui, où les menaces sont multiples, menaces internes, menaces externes, je ne suis pas sûr que nous pourrons continuer à nous conduire comme des damnés de la terre très confortables si à certains moments nous ne nous ressaisissons pas, si nous ne décidons pas d'affronter les choses avec un gros mot, n'hésite pas à utiliser, une certaine virilité, sachant que la virilité est une qualité masculine et féminine.
Alors, je reviens sur le système producteur des victimes, parce qu'on pourrait croire que c'est une évolution des mœurs, des mentalités, mais c'est codifié juridiquement. L'ensemble des sciences sociales aujourd'hui produisent des catégories victimaires qui sont relayées par le droit, relayées par la bureaucratie. Donc, c'est presque, on ne peut pas échapper au circuit producteur de la victime, sauf consentir paradoxalement, ne pas être victime, c'est consentir à sa marginalisation symbolique, être un résidu des temps anciens. On peut difficilement en sortir.
Alors on peut difficilement en sortir. La grande pierre d'achoppement de cette construction des catégories victimaires, donc qui est très fort dans le wokisme, et alors on peut dire qu'aux États-Unis, effectivement, les universités, les grands médias ne fonctionnent que comme ça. La pierre d'achoppement, c'est la justice. Donc le grand défi auquel sont contraints les juges dans les tribunaux, c'est savoir si les plaintes sont recevables ou non. Et c'est là où il y a évidemment peut-être une voie de sortie possible. Donc vous savez qu'aux États-Unis, vous connaissez bien l'Amérique, Mathieu, récemment, une petite fille qui avait pris des nuggets dans un McDo a renversé une boîte de nuggets brûlant sur sa jambe, et donc s'est brûlée, a pleuré. La famille a exigé, après un avocat, a exigé 12 millions de dollars. Elle a quand même reçu 800 000 dollars de dédommagement. Ce qui est pas mal. Moi, je veux bien me brûler toutes les parties de mon corps pour toucher 800 000. Et alors, ce genre de litige est extrêmement répandu, oui. Puisque sur les compagnies aériennes, si vous renversez votre tasse de café, et là aussi, vous aurez... Bon, mais l'Amérique est le pays du litige juridique par excellence. Mais en France aussi, on voit bien qu'il y a parfois un certain excès rhétorique où on se dit victime d'une agression alors qu'il s'agit simplement d'un acte assez anodin. Et donc ça va être vraiment à la justice de décider si elle accède aux demandes des plaignants ou si elle dit à un certain moment on a peut-être des choses plus importantes à faire et on va aller du côté des vraies victimes, parce qu'en réalité on s'aperçoit que les vraies victimes dans notre société, où cette parole est répandue, ce sont les victimes oubliées. Et la meilleure illustration qu'on en a eue, même si, à mon avis, le mouvement a mal tourné, c'est les Gilets jaunes. On ne parlait que des racisés, que des minorités opprimées, écrasées. Et en réalité, les Gilets jaunes ont dit, nous aussi, on existe, on est la France périphérique.
Mais les victimes n'étaient pas les bonnes. C'est-à-dire qu'elles n'entraient pas dans les catégories de la sociologie victimaire.
Voilà, exactement.
Elles polluaient un peu le paysage.
Exactement. Donc, il faut élargir la sociologie victimaire et ne pas rester focalisé sur des catégories qui ont été sanctifiées à l'avance. Et c'est là où le raisonnement blesse, et c'est là où il faut véritablement renverser complètement la table et dire, attendez, le statut de victime, d'abord, il n'est pas à vie, c'est pas un titre, c'est pas comme être fonctionnaire, c'est pas un titre que vous gagnez à l'âge de 20 ans et qui ne vous abandonne qu'à la mort. Et puis beaucoup de victimes, de vraies victimes, et c'est leur honneur, disent, moi je ne me sens pas victime. C'est ce que dit par exemple Neschino dans son livre Tristotique, je ne suis pas une victime. Pourtant elle a été violée par son beau-père pendant 7 ou 8 ans, et donc effectivement il y a des hommes et il y a des femmes qui ont subi des traumatismes épouvantables et qui pourtant se vivent aujourd'hui comme des êtres libres, capables d'affronter leur destin et de ne pas remâcher à l'infini les blessures reçues dans l'enfance ou dans l'adolescence.
Arthur de Vatrigan, et ensuite nous reviendrons sur la virilité.
Justement, sur le constater l'absence d'héroïsme et que le mérite n'appartient plus à une valeur, en tout cas n'est plus quelque chose qu'il faut rechercher, mais la question c'est, est-ce que c'est possible dans une société qui n'est plus qu'horizontale? Est-ce que l'héroïsme et le mérite peuvent exister sans verticalité, sans transcendance même?
Oui, c'est la vraie question. En plus, on vit dans une société du découragement. C'est-à-dire que le courage est aujourd'hui une vertu obsolète, associée aux valeurs militaires, et Dieu sait si l'armée a été discréditée et vilipendé en France, notamment par toute idéologie gauchiste à laquelle j'ai participé vaguement dans ma jeunesse.
Vous en êtes rapidement délivré.
Je m'en suis vite délivré, mais c'est vrai que j'ai pas fait mon service militaire et que l'idée de servir sous les armes nous paraissait absurde. Ce qui va nous forcer à changer, ce n'est pas notre bonne volonté, ce n'est pas les livres ou les appels que l'on lance à la télévision, c'est la réalité elle-même qui va nous forcer à considérer que le courage, la vaillance, la bravoure, une certaine forme de transcendance que certains trouvent dans les religions, mais d'autres dans l'idéal national. Après tout, la survie de la nation à laquelle on appartient n'est pas un idéal méprisable. Et tout ça sera dicté par ce qui se passe et ce qui se passe depuis maintenant presque 10 ans. Il y a eu la guerre au Mali, il y a eu les attentats de 2015. Ça, je crois, transformer les gens. Et d'abord, on s'aperçoit que les Français ont survécu aux attentats. Et ça, c'est quelque chose qui m'a étonné. Je me suis dit, la société va s'effondrer. Non, les attentats nous tuent, mais ne nous brisent pas. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, en France comme en Israël, pour prendre un pays qui en subit régulièrement. Et puis, la proximité de la guerre fait que de plus en plus dans les médias, ça me frappe, on célèbre les gestes héroïques. Non pas les héros, mais les gestes héroïques. C'est-à-dire, ce que je disais tout à l'heure, ces hommes ou ces femmes qui, tout d'un coup, par une sorte de folie, se jettent à l'eau, s'il s'agit de sauver un noyé ou dans une maison en feu, et disent « ma vie a moins d'importance que celle d'un inconnu ». Et donc, on peut imaginer un scénario, mais je peux me tromper complètement, où l'idéal héroïque reviendra en point d'équilibre de l'idéal victimaire, et peut-être fera que les gens réfléchiront un peu et se diront se battre pour les autres, se sacrifier, parce que c'est la notion de sacrifice qui est centrale, vieille notion religieuse, catholique, chrétienne, pardon, mais qui est en train peut-être de retrouver une certaine auréole ou une certaine aura, peut-être que là, l'idéal victimaire va reculer et qu'au fond, la société va se dire « Oh, il y en a marre de ces victimes, il y en a marre de ces gens qui se plaignent. » Parce qu'évidemment, la plainte, et ça je ne sais pas si vous vouliez me poser la question, Mathieu, mais la plainte est corrélative de la victimisation. Et nous sommes en France une société qui manifeste une certaine intempérance dans le gémissement perpétuel.
Alors, j'allais plutôt vous poser une question de reprise en main, appelons ça comme ça. C'est la question de ce qu'on pourrait appeler, vous avez utilisé le bon mot de virilité. Mais l'éducation à la virilité, ça peut vouloir dire... Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour une jeune génération qui est élevée dans un tout autre monde? Ce que serait une éducation à la virilité? Vous l'avez dit, pour les jeunes garçons et les jeunes filles.
Ben, vous savez qu'il y a un podcast qui est très célèbre, qui s'appelle « Mes couilles sur la table ».
Oui, oui, oui.
Donc, qui marche très bien.
Je ne suis pas certain qu'on y fasse la promotion de la virilité.
Oui, non, je suis d'accord avec vous. Mais la virilité, ça a deux sens. Soit c'est la virilité toxique du casseur ou de la brute qui, dans la cour de récréation, ça nous est tous arrivé quand on était enfant, veut absolument vous dominer et vous teste pour savoir si vous résisterez au coup ou si au contraire vous serez un esclave docile. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le harcèlement scolaire. Puis la virilité, c'est plutôt le très beau poème de Rudyard Kipling, « Tu seras un homme, mon fils oui. ». Mais on peut aujourd'hui le mettre au féminin. « Tu seras une femme, ma fille », c'est-à-dire que tu seras capable, dans une situation de danger ou de risque, d'aller au secours d'une personne que tu ne connais pas, mais qui est en péril. Et donc, la virilité, c'est justement la capacité de s'oublier en tant que personne pour aller vers les autres et pour ne pas se replier sur son petit confort personnel. Parce que le contraire s'appelle la lâcheté. Et évidemment, spontanément, nous sommes tous des lâches. Donc, il faut être capable de surmonter sa peur, sa terreur naturelle, pour aller vers cet idéal qu'on pourrait appeler virilité. Mais je suis sûr que certaines féministes vont trouver immédiatement un néologisme pour le transformer. Et pourquoi pas, moi, ça ne me dérange pas. Ça ne mange pas de pain, pourvu que ça dise la même chose.
Merci beaucoup, Pascal Bruckner. Je souffre, donc je suis votre nouvel ouvrage. Merci à tous les deux. Mathieu Bocoté, Arthur de Vatrigan. Il n'y aura pas d'heure des Pro 2 ce soir. Un point sur l'information. Et puis après, vous suivrez à partir de 20h15 sur CNews. Enquête d'esprit en direct d'Ajaccio. La messe de la Vigie Pascale, célébrée par le cardinal François Bustillo en la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. À demain matin.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.